des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une nouvelle rencontre entre deux écrivains qui ne s'étaient sans doute jamais rencontrés encore, alors qu'ils ont énormément de choses peut-être à se dire. En tout cas, ils ont quelque chose de décisif en commun, la faculté de s'interroger à travers la fiction sur ce que nous ne voulons peut-être pas assez voir, certaines aberrations dans nos comportements, par exemple, et notamment l'emprise que peuvent avoir les objets sur nos vies contemporaines, emprise dont les conséquences, quand ces objets sont hautement technologiques, mais pas seulement, peuvent être bien fâcheuses. Deux écrivains qui s'interrogent sur la façon dont nous appartenons au monde qui nous entoure, sur la façon aussi dont certaines choses que nous possédons finissent par nous posséder. Pour en parler, nous avons réuni la romancière américaine Lionel Shriver, qui publie chez Bellefond un passionnant recueil de nouvelles, Propriété privée, sur la notion précisément d'appartenance aux autres, à soi-même. Bonjour Lionel Shriver.
Hi.
Et hi Marguerite Capel, qui sera votre interprète pendant cette émission. Hi Marguerite.
Bonjour.
Voilà. Avec Lionel Shriver, l'écrivain français Sabri Loata, qui publie chez Flammarion 404, comme soit le modèle de voiture, soit les pages introuvables d'Internet, question de génération. 404, c'est un récit légèrement d'anticipation dans lequel la high-tech ne comble pas les failles, bien au contraire, qui se creusent entre les populations. Bonjour Sabri Loata.
Bonjour.
Alors Lionel Shriver, je rappelle que vous êtes l'auteur de 12 romans dont Il faut qu'on parle de Kevin, lauréat du prix Orange, porté à l'écran par Lynn Ramsay avec Tilda Swinton. Vous publiez aujourd'hui Propriété privée chez Bellefond. C'est un recueil de nouvelles, traduit de l'américain par Laurence Richard. C'est votre premier recueil de nouvelles. Il rassemble plusieurs histoires, toutes centrées autour de la notion de propriété et des effets de ce qu'on possède sur nos relations avec les autres. La première nouvelle qui m'a fasciné, qui est même une novella, un petit roman, explore avec une grande acuité de regard l'histoire de la relation entre un homme et une femme qui ont été amants avant de devenir les meilleurs amis du monde. Une relation qui se modifie considérablement quand l'homme décide d'épouser une autre qui ne supporte pas sa complicité avec l'ancienne. Alors il sera notamment question d'un cadeau de mariage qui n'a pas de prix, offert par la première au marié et autour duquel vont se cristalliser des enjeux de pouvoir absolument colossaux. On trouve aussi l'histoire d'un arbre qui sème la zizanie entre deux voisins à cause des graines qu'il répand, mais aussi l'idée d'une certaine forme d'invasion. L'histoire aussi d'une femme qui emménage dans une maison dont les habitants ont été expropriés et qui voit sa vie bouleversée par les fantômes de ceux qui vivaient dans cette maison avant elle. Et l'histoire, enfin, d'une mère qui en a marre de voir son fils chez elle à plus de 30 ans et qui, le poussant à quitter le nid familial pour qu'il vive de ses propres ailes, va en faire un symbole de la cause des sans-abri. Il est donc ici question de maison, de sentiments, de liens familiaux et amoureux, tous perturbés par cette notion de propriété. Est-ce que, Lionel Shriver, il y a une morale à ce recueil de nouvelles, quelque chose que vous voulez nous dire sur notre folie?
Well, it's about the complicated relationship between
relation compliquée
ourselves and what we own.
Entre nous et ce que nous possédons. La façon dont nous avons tendance à nous projeter
both real estate and
à la fois
and
sur la propriété comme les maisons et puis les petits objets
and
auxquels
so
on s'accroche.
A way in which, that can boomerang and
et il peut y avoir un effet boomerang.
Those places, like
ces endroits et ces objets finissent par se réapproprier qui nous sommes.
I sometimes hesitate now when
j'hésite parfois quand j'achète quelque chose maintenant parce que j'ai conscience que c'est un engagement et que l'objet m'adopte de la même manière que je l'adopte moi.
If you have an increasingly cluttered surroundings, you realize that,
et donc quand on a de plus en plus de choses comme ça autour de soi, on se rend compte qu'en fait, on leur laisse de l'espace dans nos vies.
I enjoy owning things.
Moi, j'apprécie posséder des choses.
I tend to be attached to things,
et j'ai tendance à m'attacher aux choses, non pour leur valeur financière,
but because I've owned them for a long time.
Mais en général, parce
and
que je les ai depuis longtemps.
That in some ways we've exchanged more molecules.
Et donc, ça veut dire qu'on a échangé davantage de molécules quelque part
it's more and
entre
more
moi et cet objet.
Of me.
Donc, c'est un objet
and
qui me représente de plus en plus.
Stupid as,
et ça peut paraître complètement idiot.
I've used the same pewter spoon
Mais j'utilise la même petite cuillère pour tourner mon café depuis 33 ans.
I am very attached to that.
Ça impressionne beaucoup.
Attaché à cette petite cuillère.
Ça impressionne beaucoup, Sabri Loata.
Et c'est absurde.
Ah, c'est du fétichisme à ce niveau, non?
Yeah, I think it starts verging on a fetish.
Oui, ça commence à être du fétichisme.
Vous avez Lionel Shriver, juste une petite précision avant de présenter le livre de Sabri Loata. Vous avez choisi un pseudonyme masculin à 15 ans, Lionel, parce que vous pensiez que la vie des hommes était plus facile que celle des femmes. Quelques décennies après, qu'en pensez-vous?
Non,
ça c'est n'importe quoi. C'est un journaliste qui a inventé ça il y a bien longtemps. Ce n'est pas de votre faute.
Ah,
hein.
Oui,
je n'ai jamais dit ça.
J'en profite, moi je vais à la source.
C'est idiot d'ailleurs de dire ça.
Je vous demande. Alors quelle était la raison de ce choix d'un prénom masculin?
La raison pour laquelle j'ai changé de nom, c'est que je ne supportais pas le prénom qu'on m'avait donné à la naissance. J'avais l'impression que ce n'était pas mon prénom à moi et j'avais besoin de changer.
En fait,
si je prends le prénom de Lionel,
Et que
c'est un prénom masculin, ça ne va pas changer mon destin, en fait. Ça ne change pas le fait que je suis une femme.
Trope, as we call it now.
Donc c'est un cliché, un trope, comme on dit aujourd'hui, qui n'a pas vraiment de sens.
Sabri Loata, vous êtes l'auteur des Sauvages, une série de 4 romans devenue une série sur Canal+, qui racontait l'élection dans un avenir proche d'un président d'origine algérienne. Alors déjà, je vais vous poser la question d'origine algérienne, parce qu'au fond, j'ai utilisé cette expression et déjà, elle m'insupporte en fait.
Ah c'est vrai?
Ouais.
Moi, ça me va parce que c'est spécifique. Ouais. Je préfère largement d'origine algérienne à ce que les gens disent souvent, issus de l'immigration.
Ouais.
Tant qu'il n'y a pas de concept, ça va. Tant qu'il y a un lieu. Parce qu'on vient d'un endroit, en fait.
Exactement.
On vient d'un endroit précis. Et l'Algérie, c'est en plus très particulier.
Mais d'être ramené à chaque fois à ses origines, est-ce que c'est pas...
Bah, ça, c'est la panique identitaire française. Hein.
Ouais.
Ça, c'est pas, moi, j'en veux pas aux gens personnellement. C'est vrai que c'est désagréable de toujours... Surtout quand, comme moi, on n'a pas d'accent, on n'a pas... Ouais. Vous voyez, enfin, c'est pas... Donc, c'est, oui, c'est un peu étrange et ça dénote probablement un petit peu de racisme.
Ouais.
Mais
donc
oui, je
dis
mais
quoi alors
non,
pour ce président
d'origine algérienne.
En tout cas, donc il arrivait à la tête de la France. Dans le nouveau roman que vous publiez, 404, vous imaginez qu'en 2022, donc on est aussi dans un futur très très proche, mais quand même dans le futur, c'est un roman d'anticipation, eh bien, il y a une femme qui incarne une France, je vous cite, blanche et gracieuse, à la fois éternelle et primesautière. Et elle est élue massivement après le viol qu'elle aurait subi de la part du président algérien, pour le coup pas d'origine,
lui,
algérien, voilà, lors d'un voyage officiel qu'elle fait pour s'acheter une crédibilité internationale. Un viol qui est prouvé, je mets des guillemets, par une vidéo hallucinante qui se révélera peut-être être une fausse vidéo. On fait en effet, au moment où se passe votre roman, ça a commencé déjà aujourd'hui, mais en tout cas en 2022 c'est encore plus développé, on fait dire tout aux images, on est à l'heure des deepfakes, vous appelez-vous des mirages, et c'est précisément ce qui conduit Alia, l'une de vos personnages, brillante major de Polytechnique, alors elle aussi d'origine algérienne, à inventer une application qu'elle nomme 404 et qui permet de filmer des vidéos qui sont infalsifiables parce qu'elles ne sont pas enregistrables. Donc on ne peut pas travailler sur ces vidéos. Alia a grandi dans l'Allier et c'est là qu'elle décide de tester son invention, de la faire grandir aussi auprès de son compagnon Mehdi, qui est maire, hein, lui, du petit village de La Brèche.
La Brèche.
Voilà, donc on voit Alia, Allier, La Brèche, il va être question de faille aussi. En se faisant aider financièrement par un ancien camarade de prépa, Kader, nouveau magnat de la téléphonie, mais le mieux étant souvent l'ennemi du bien, 404 va avoir des effets assez imprévisibles, voire dramatiques, qui vont mettre, je m'arrête là, l'allié à feu et à sang sur fond de tension communautaire. Car c'est le prisme par lequel vous choisissez de nous donner à lire cette saga politique et technologique, le conflit ethnique, allant jusqu'à imaginer dans le roman qu'une région où les Français... d'origine algérienne, se sont réfugiés, qui finiront peut-être par demander quelque chose de très précis. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, peut-être vous ne voulez pas qu'on...
Là, c'est parfait.
Voilà, non, c'est parfait. Fait. Alors, on s'arrête là. Même question qu'à Lionel Shriver, à Sabri Loata. Derrière ces habits hautement technologiques, est-ce que ce roman, il a aussi une visée morale dans ce qu'il veut nous dire de la société où nous vivons aujourd'hui?
Ah oui, très clairement, la technologie m'a pas du tout intéressé en tant que telle. Ce qui m'a intéressé, c'est comment la technologie a tellement de pouvoir sur nos vies. C'est-à-dire à quel point Spotify, l'application de partage de musique, c'est mieux que moi la prochaine chanson que je vais aimer. Mais il y a aussi d'autres applications, les applications pour courir, tout ça. En gros, notre téléphone, puisqu'on parlait des objets tout à l'heure, notre téléphone, c'est beaucoup mieux que nous, à peu près, enfin, qui on est en vérité.
C'est lui qui nous possède, dirait Lionel Shriver.
Et c'est en ça que, étant donné, je crois que la technologie réussit le vieux rêve de voler l'âme des humains, en fait. Et comme c'est là que le pouvoir est tellement profond du côté de la technologie, que je me suis dit que c'était là qu'il fallait que ces gens, en gros, avaient plus de pouvoir que les présidents, en fait. Par exemple, j'imagine une élection présidentielle qui se passe en 2022, mais elle n'a pas beaucoup d'importance, en vérité. Ce qui compte véritablement, c'est ce qui se passe à l'intérieur du pays, au sein de cette espèce d'enfer technologique que j'imagine, et de la solution qui, comme vous l'avez bien dit, le remède va s'avérer pire que le mal.
Mais vous disiez, c'est pas la technologie qui m'intéressait, finalement, tant. Donc, c'est plutôt quoi? C'est les conséquences de cette technologie?
Ouais, c'est comment, en gros, une technologie est lancée dans un territoire donné, avec les meilleures intentions du monde, et comment ça va backfire, comme on dit en anglais. Comment ça va, d'une certaine façon, faire tout s'enflammer. Et au début, je réfléchissais à l'histoire dans un contexte américain, étant donné que j'habite aux États-Unis et que...
Vous habitez en Pennsylvanie, c'est ça?
J'habite à Philadelphie, oui. Et le fait d'habiter là, donc ça me donnait envie d'écrire en Amérique, d'écrire dans un... Sauf que j'arrivais pas à trouver les personnages. Moi, j'aime bien quand un roman, ça... pour écrire un roman, en gros, je cherche ce qui me gêne le plus, ce que j'ai le moins envie de regarder, et je décide de faire tout le roman sur ce sujet.
C'était l'allié.
Vous dites ça en riant, mais un peu, parce qu'il se trouve que je m'y suis marié et tout, mais bon, c'était pas l'allié, c'était la question raciale en France. Et c'est ça, donc vous voyez, c'est ça qui m'intéressait.
Dans l'allié, enfin, j'ai choisi pour
j'ai choisi de l'incarner dans un département rural.
Exactement.
Donc c'est, en gros, c'est une dystopie technologique comme je l'ai écrite. On s'attendrait à ce que son décor naturel soit une mégalopole brumeuse, vous voyez. Et moi, le contraire, je me suis dit non, c'est la France rurale, la France de toujours, cette fameuse France éternelle. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de situer ce contraste.
Très bien, merci à tous les deux de participer à ce temps des écrivains. Vous avez l'un et l'autre un goût très puissant, très affirmé pour la fiction et encore plus pour l'anticipation. C'était le cas dans Les Sauvages, Chabril Ouattara, on l'a dit, c'est le cas dans 404. Lionel Shriver, vous avez donné dans l'anticipation dans Les Mandibles, Les Mandibles, votre précédent livre qui se déroulait en 2029 et dans lequel les États-Unis avaient renoncé à rembourser leurs dettes et se retrouvaient confrontés à une crise financière majeure. Que vous permet, en tant que romancier, ce choix de l'anticipation?
Well, the main thing that I made it possible for me to.
Eh bien, pour moi, la principale possibilité en plaçant ce roman en 2029, c'était
create a future.
Que ça m'a permis de réaliser que quand on crée un avenir, il n'est pas obligé d'être juste, d'être correct. En fait, on n'est pas en train de prédire ce qui va se passer. En fait, il faut simplement qu'il soit plausible. Et donc ça, c'est un soulagement pour un écrivain de fiction. L'autre chose, c'est que si on écrit quelque chose qui se situe dans un avenir très proche, il faut savoir que le temps va continuer à s'écouler et que parfois, il peut rattraper votre livre. Donc, d'un côté, vous risquez que votre livre ne soit plus pertinent, parce que, bien sûr, vous êtes trompé sur beaucoup de choses. Et de l'autre côté, je regarde 1984 d'Orwell, et en fait, on continue à le lire. Et pourtant, on a dépassé 1984. Et ça ne prédisait pas ce qui allait se passer en 1984. Et ce n'est pas un problème, c'est toujours intéressant. Parce que c'est toujours une version plausible qui a une pertinence.
Je suis complètement d'accord. Et moi, j'avais adoré The Mandibles. Je me suis même, par certains aspects, inspiré un peu de... C'est une grande famille sur une longue génération. Et des personnages, vous savez, il y a un personnage, un père économiste à qui il arrive... qui est particulièrement humilié. Ce roman est très cruel, il faut le dire quand même. Et c'est vrai que le futur proche, c'est un lieu de fiction passionnant. Parce que ça donne une liberté inouïe. Et c'est vrai que c'est pas grave si jamais le temps nous rattrape, qu'on lit encore Orwell et qu'on lit... Mais c'est beaucoup plus intéressant que le futur dans 30 ans. Parce que le futur dans 30 ans, ça devient un exercice de prédiction. J'avais lu un roman américain qui se passait dans 100 ans. Et alors, il fallait évidemment imaginer les conséquences. Et c'était chiant, mais ça m'intéresse pas la prédiction. Qui on est pour prédire? L'essence de la vie, c'est le suspense. On sait jamais ce qui va se passer après.
Mais comme terrain de jeu, disons, ça permet de quoi? C'est un laboratoire, un territoire intéressant pour
ça permet en fait de se séparer du réel, de se séparer de l'actualité, vis-à-vis desquels les romanciers, je crois, ont trop tendance à se laisser ramener sans cesse. L'actualité ne sert qu'à nourrir nos romans. C'est comme dans le chant 5 de l'Iliade. Les dieux nous envoient des malheurs pour que nous ayons des sujets à composer pour nos chants. Donc il ne faut pas inverser l'ordre des priorités. Ce qui compte, c'est de faire des beaux romans, et la réalité ne sert qu'à nous donner des sujets.
Et on lit toujours l'Iliade aussi.
On lit l'Iliade.
Vous avez été tous les deux adaptés par l'audiovisuel, que ce soit sous forme de film, avec Il faut qu'on parle de Kevin, de Lynn Ramsey, pour vous, Lionel Shriver, sous forme de série, pour vous, Sabri Luata. Quel regard vous portez sur cette autre mise en forme, d'ailleurs, de vos textes, et est-ce que ça a changé votre écriture ?
Oh, it certainly didn't change my way of writing.
Non, ça n'a pas du tout changé ma façon d'écrire.
And I wasn't involved in the making of the film.
Et je n'étais pas impliquée dans la réalisation du film.
I think it generally worked out because it's pretty good.
Et je pense que j'ai eu la chance parce qu'il est plutôt bon. Mais c'est une forme complètement différente.
I think one of the mistakes that some novelists
je pense qu'une erreur
make
que font certains romanciers,
get overly involved in
c'est de s'impliquer trop
the production of their
dans la production
adaptation,
de l'adaptation
and it keeps
de leur texte.
You from writing your next
et
book.
Ça vous empêche en fait d'écrire
so
le prochain livre.
I just got on with my job
en ce qui me concerne, j'ai continué mon travail et j'ai laissé la réalisatrice faire le sien.
The nice thing about it is that you realize that
et ce qui est de bien là-dedans, c'est qu'on se rend compte
wonderful or crap it is. It's
que
very separate
le film soit
the book.
Très bon ou très mauvais, de toute façon, il est complètement distinct du livre. Et il ne peut rien lui faire. Il ne peut pas l'affecter.
It is already out in the world.
Le livre
and even
est déjà
if they
là.
Do a terrible job, they can't hurt your
il est
book.
Déjà disponible. Et même s'ils ils font très mal leur travail, ils ne peuvent pas abîmer votre livre.
J'aime bien Marguerite, comme vous avez traduit crap. Voilà. Très mauvais film.
Voilà, Sabri Luata, sur cette question de l'adaptation. Et si ça change aussi, au fond, l'écriture. Ou si ça la confirme d'ailleurs dans sa sérialisation. Quoi.
Non, moi, ouais. J'ai eu l'expérience vraiment rigoureusement inverse. Ouais. Ouais. Dans le sens où j'ai non seulement participé à l'adaptation, mais... J'ai écrit pratiquement tous les dialogues. Donc c'est moi j'ai écrit genre un roman et j'ai l'impression que la série Les Sauvages adaptée de mon roman, c'est un peu mon deuxième roman et que 404 est mon troisième roman.
Puis vous l'aviez écrit aussi en pensant éventuellement à ça
non.
Puisque c'était en c'était
non,
en
non, la forme
saison 1 2 3 4 aussi presque.
Ouais, mais non, la forme sérialisée des romans, je pense que c'était franchement parce que j'étais pas connu, il fallait faire des éclaboussures pour qu'on me remarque. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça, mais après pour ce qui est de la série, c'est à la fois c'est un autre métier et en même temps il faut reconnaître que beaucoup de ce qu'on cherche dans les romans, on le trouve aujourd'hui dans les séries télé.
Je pense ça aussi quand on dit justement, c'est le nouveau feuilleton du 19e, voilà, la série, vous, bon, ça a tendance à être un peu le cliché aujourd'hui, de dire, voilà, finalement, on trouve dans la série ce qu'on trouverait plus dans le roman aujourd'hui, d'ailleurs, on voit pas ça, c'est, pourquoi.
On les trouve dans les romans de Lionel Shriver,
oui,
on les trouve...
Exactement, non, mais il est souvent dit, voilà, au fond, il y a une crise du roman, et puis les séries sont là, au fond, ça marche parce que ça apporte ce que le roman apportait, c'est-à-dire des intrigues développées avec plusieurs personnages, sur plusieurs... On retrouve le roman, le fameux grand roman du 19e, qui a d'ailleurs influencé énormément les écrivains anglo-saxons, les Américains en particulier, puisque des gens comme Tom Wolfe ou comme Norman Mailer ne citent pratiquement que Balzac ou Zola.
Moi, je me demande, qu'est-ce qu'on cherche dans un roman? Pourquoi on lit des romans? Pourquoi on en écrit? Moi, je pense que c'est aussi pour dire des choses désagréables un peu, pour apporter des mauvaises nouvelles. Par exemple, avec 404, j'ai cette impression distincte d'apporter un peu une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand le roman finit, j'espère que le lecteur, j'espère qu'il va être dérangé d'une façon
tétanisé.
Ou d'une autre. Tétanisé. Tétanisé, carrément. Je voulais en rester à la déranger. Mais les romans, l'expérience particulière du roman, c'est qu'on s'immerge avec une voix intérieure qui parle en nous. Et c'est le contraire de l'expérience cinématographique ou sérielle où on s'adresse à un public. Donc quand on s'adresse à un public, il faut s'adresser dans sa langue, en fait. Il faut aller le chercher, le public. Le roman, on va pas le chercher. C'est-à-dire que il se passe entre le lecteur et l'écrivain quelque chose, il y a un lien d'une intimité qu'on retrouvera jamais, à mon avis, dans la fiction audiovisuelle.
Oui, Lionel Shriver, justement, par rapport à cette question de la littérature dans un monde d'images, vous avez une très très belle définition de la fiction. C'était dans votre discours de 2016 à Brisbane, dont on reparlera tout à l'heure, parce que c'est un discours important et qui me semble important aussi de faire réentendre aujourd'hui. Vous avez dit que la fiction est par nature non authentique. It's fake, it's self-confessedly fake. Donc c'est un faux avoué. J'aimerais le dire en anglais, mais je vais le traduire quand même. Ça concerne des personnes qui n'existent pas et des événements qui ne se sont pas produits. L'enjeu n'est pas de savoir si votre roman honore la réalité, car c'est tout ce dont vous pouvez vous passer. Voilà, it's fake, c'est en fait, de façon autoproclamée, du faux. Or, nous vivons, il me semble, dans un monde qui est de plus en plus marqué par l'importance de ce qu'on appelle peut-être à tort le réel. Beaucoup de romanciers aujourd'hui disent « moi, je parle du réel ». Bon, on n'a jamais vu autant de biopics dans le cinéma. On n'a jamais vu dans la littérature autant de livres ancrés dans le témoignage, dans la biographie, dans l'autobiographie. Or, tous les deux, vous êtes justement des écrivains qui donnaient dans la fiction et dans l'imagination, qui n'est pas d'ailleurs contraire, c'est aussi de l'observation du réel. mais ça n'interdit pas l'imagination. En quoi est-ce important pour vous, Lionel Shriver, de faire appel justement à ces forces de l'imagination et de rétablir la réalité de la fiction qui est de faire du fake, avoué comme fake et néanmoins extrêmement puissant?
Fiction, like all art, if I'm gonna
be pretentious, comme tout les arts, sans être prétentieux, c'est une sorte de jeu. La réalité est une forme d'argile. Et en fait, on la modèle et on fait des petites choses, des petites formes amusantes avec. Et parfois, on a envie de faire un petit cheval. Et puis parfois, on fait une petite tour Eiffel.
Mais
je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis tellement agacée par les politiques identitaires et la manière dont elles enfreignent sur le domaine des arts en général et de la fiction en particulier, c'est que c'est quelque chose qui manque de joie, de gaieté et qui se trompe sur son sens. En fait, on ne joue pas que pour l'auteur, on joue aussi pour le lecteur. Et on utilise la réalité, parfois on éclaire la réalité d'une certaine manière, mais malgré tout, ce n'est pas la réalité.
That's what makes it fun.
Et c'est ce qui fait que c'est amusant.
What makes it, if you will, a safe space.
Et c'est ce qui en fait peut-être un espace protégé, un safe space, comme on dit aujourd'hui, pour explorer différents types de réalités. Et c'est pour ça que ça s'appelle la fiction, parce que ça n'a pas besoin d'être authentique. Ça doit fonctionner suivant ses propres termes. Et c'est ça que j'ai dit dans ce discours auquel vous avez fait allusion. La fiction, c'est voilà, comment, avec quoi est-ce qu'on peut s'en sortir, avec, jusqu'où est-ce qu'on peut aller.
La fiction comme safe space, Sabri Loata, ça vous plaît?
Music to my ears, comme on dit en anglais, parce que c'est... Je crois que c'est une tendance aux mémoires, en fait. Des gens qui ont une vie intéressante et qui ont envie de la raconter. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un échec. La grande tradition littéraire que j'admire le plus, c'est quand on s'intéresse au point de vue de l'autre, en fait. Quand on s'intéresse à l'autre. Quand on va chercher... moi, je m'intéresse jamais à moi-même. Aussi peut-être parce que j'ai pas une vie très passionnante. Donc, j'ai pas envie de raconter comment... Et surtout, c'est vrai que c'est l'idée il y a un côté tautologique, un peu, dans cette littérature d'identité, je suis d'accord. Où, en gros, on veut entendre une voix nouvelle. Et quel que soit ce que cette voix raconte, ce qui compte, c'est qu'elle a été entendue. Donc c'est vrai que c'est déprimant, en gros. Et c'est déprimant aussi pour les écrivains issus de minorités ethniques, de se dire, alors donc tout ce qui peut vous intéresser chez moi, c'est le fait que, voilà, j'ai grandi dans tel, que je mangeais ce genre de petits gâteaux, que j'ai eu cette... Évidemment, généralement, alors par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'être une minorité raciale dans un pays où on n'est pas... Évidemment que c'est difficile de pas être la majorité. Mais je crois pas du tout que le chemin que la... Le clavier qu'on a en littérature, il y a 88 touches, en gros, il n'y en a pas 8. Et de temps en temps, on a tendance à se dire, je vais juste raconter ma petite expérience. Alors qu'on peut raconter tellement de choses.
Vous pouvez être un Indien Cherokee ou un Martien dans sa planète, ou n'importe qui.
Évidemment, on a des possibilités d'incarnation qui sont virtuellement illimitées. Donc c'est vrai que la dimension de jeu, de fun, je suis complètement d'accord, elle est essentielle. Et le plaisir de la littérature, c'est le plaisir de l'écriture et c'est le plaisir de devenir quelqu'un d'autre pendant un instant.
Et faire des petites tours Eiffel. Ça veut dire, Lionel Shriver, qu'écrire est aussi de l'ordre de l'acte de résistance?
Oh, absolutely.
Oui, tout à fait.
It is a pushback,
façon de résister en même temps qu'on essaie aussi d'imiter la réalité. C'est aussi une façon de la repousser. C'est aussi une façon de chercher sa propre réalité. C'est ça l'écriture. C'est de dire ça, ça m'appartient et allez tous vous faire foutre.
Eh bien voilà, mais on continue avec vous, Lionel Shriver et Sabri Loata. On écoute votre choix musical, Lionel Shriver. Vous avez choisi une musique du groupe Cream, Anyone for Tennis.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Twice upon a time in the valley of the tears, the auctioneer is bidding for a box of fading ears, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? Screams are all melting on the streets of bloody beer, while the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer. And the Bentley driving guru is putting up his price. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? Same underneath the pretty lights.
tennis. Wouldn't that be nice?
Cream, Anyone for Tennis, c'est le choix de Lionel Shriver. Elle est avec nous dans le temps des écrivains et avec Sabri Loata qui publie 404 chez Flammarion Versilio. Lionel Shriver publie Propriété privée chez Belfond. C'est traduit de l'américain par Laurence Richard. Pourquoi ce choix musical, Anyone for Tennis? C'est vrai qu'il est question de tennis dans la première nouvelle.
Yes, that first novella,
oui, dans cette première novella que vous avez introduite au début de l'émission, il y a un triangle, une relation en triangle entre un duo de meilleurs amis, un homme et une femme.
And along comes another
et
woman,
puis arrive une autre femme.
Et
l'homme et cette autre femme vont se marier.
But, the other woman hates
mais cette autre femme déteste la meilleure amie.
And at a certain point in the story,
il y a un moment dans l'histoire où elle dit « c'est à
l'homme ».
L'homme doit donc choisir entre sa meilleure amie et sa fiancée.
But one of the things that makes the novella distinctive
mais
is that the best
un élément très particulier dans cette novella, c'est que la meilleure, les deux meilleures amies sont aussi des partenaires de tennis. Ils jouent très régulièrement ensemble, ce qui crée une forme d'intimité entre eux. Et tous les gens qui jouent régulièrement au tennis avec quelqu'un comprennent ce que je veux dire par là. C'est une proximité très particulière entre des gens qui pratiquent un sport ensemble. Et c'est de ça que la petite amie est si jalouse, parce qu'elle ne joue pas au tennis.
Lionel Shriver, je rappelle que vous êtes l'auteur de 12 romans, dont Il faut qu'on parle de Kevin, livre formidable, lauréat du Orange Prize, porté à l'écran par Lynn Ramsey avec Tilda Swinton, sur la dérive d'un fils sous les yeux de sa mère, depuis son plus petit âge jusqu'à l'adolescence, où il finira par assassiner ses camarades de lycée. Vous avez d'ailleurs souvent écrit des romans cruels et précis sur la famille, la maternité, le rapport au corps, aux autres, en portant le fer dans la plaie. C'est ce qui fait le grand plaisir qu'on a à vous lire, cette cruauté et cette finesse dans l'analyse des rapports humains. Vous publiez aujourd'hui Propriété privée chez Belfond. C'est votre premier recueil de nouvelles, des nouvelles qui ont toutes en commun le fait de s'attacher à cette notion de propriété. Qu'est-ce que font sur nos vies les objets que nous possédons? Est-ce que ce sont nous qui les possédons ou est-ce que ce sont ces objets qui nous possèdent? Il est question de maison, de sentiments, de liens familiaux et amoureux, tous perturbés par cette notion de propriété. Et vous avez d'ailleurs vous-même, et je voudrais qu'on commence par ça, en tant qu'écrivain, on en parlait un petit peu tout à l'heure, toujours défendu le droit pour un écrivain de s'approprier tous les sujets qu'il veut s'approprier. Vous avez été très critiqué pour ça. C'était en septembre 2016, à Brisbane, en Australie, dans un festival de littérature, où, coiffé d'un sombrero, vous aviez apporté votre geste de soutien à deux étudiants d'une université du Maine qui avaient été exclus en début d'année pour avoir organisé une tequila party où les fêtards portaient des chapeaux mexicains alors qu'ils n'étaient pas mexicains. Vous aviez eu cette phrase « Vous n'êtes pas supposé mettre les chapeaux des autres ». Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes payés comme écrivains, marcher dans les chaussures des autres, essayer leur chapeau? C'est votre définition de la littérature, Lionel Shriver?
Je ne
dirais pas nécessairement que c'est ma définition de la littérature, mais en tout cas, c'est un des choix qui doit être disponible quand on fait de la littérature. Quand on écrit de la fiction, si on ne veut pas écrire exclusivement des mémoires, et je ne crois pas que ma vie soit très intéressante, alors il faut pouvoir écrire sur d'autres.
Et ça m'a
beaucoup attristé ces dernières années.
My colleagues
de voir
become
mes
much
collègues
more fearful.
Devenir beaucoup
not
plus
just conservative,
inquiets,
but fearful.
Pas seulement conservateurs, en fait, mais et je pense que le côté ironique
misguided notion of cultural appropriation
de cette idée erronée de l'appropriation culturelle,
white writers are starting to write white
c'est que les écrivains blancs commencent à écrire
and
des livres blancs.
I think that's offensive,
et ça, moi,
right?
Je pense que ça,
that
c'est un problème.
Is so anxious about
tout le monde est tellement angoissé à l'idée d'écrire du point de vue d'une autre race, d'un autre sexe, d'une autre choix d'orientation sexuelle, de vie sexuelle, ou du point de vue de quelqu'un qui a un handicap. On finit par écrire des livres qui sont très orthodoxes, qui auraient pu se passer dans les années 50. Parce que ça semble tout simplement trop risqué pour un écrivain blanc d'écrire, par exemple, un personnage noir.
Mais vous avez dit, Lionel Shriver, j'espère que le concept d'appropriation culturelle est une mode passagère. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une mode passagère ou on va vers un durcissement de cette mode qui n'en serait plus une, du coup?
I think it's getting worse.
Je pense que les choses empirent. J'en suis navré. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu toute une controverse aux États-Unis actuellement sur un livre qui s'appelle American Dirt.
On peut en dire un mot peut-être d'ailleurs.
And it's written by a white writer who,
at least
I gather, did a lot of homework. She worked for 7 years on this thriller.
Qui a beaucoup travaillé, en tout cas, elle a passé plusieurs années à écrire ce thriller. Elle est allée au Mexique, elle a interrogé beaucoup d'immigrés mexicains sur la frontière américaine. Je n'ai pas d'opinion sur ce livre, je ne sais pas s'il est bien réalisé, mais ce n'est pas la question. En fait, la question, c'est est-ce qu'elle a le droit d'écrire un livre sur des immigrants mexicains alors qu'elle ne l'est pas elle-même? Et moi, ma réponse est bien sûr, évidemment, qu'elle a le droit. Et oui, ce livre a eu une grosse publicité, beaucoup de budget pour ça. Les gens ont l'air d'aimer ça, si vous aimez ce genre de livre.
Il y a eu
beaucoup d'écrivains latinos aux États-Unis qui ont été offensés par ce phénomène et qui se sont opposés à cette publication. C'est la première fois que, à ma connaissance, l'appropriation culturelle touche une sortie comme ça d'un livre aussi grand public. La plupart du temps, c'était dans le contexte surtout des romans pour les jeunes adultes. Mais là, c'est en train d'exploser dans la littérature générale.
Sabri Loitard.
Ah, c'est intéressant. En France, on n'a pas du tout ces questions d'appropriation culturelle. Et d'une certaine façon, je pense qu'elles nous manquent, en fait. Moi, par exemple, pour le dire franchement, l'histoire des Arabes en France, elle a toujours été racontée par des Blancs. Donc c'est normal, au bout d'un moment, que les Arabes veulent raconter leur propre histoire.
Non, mais c'est normal que tout le monde puisse, en fait, raconter...
Pas tout à fait. Non. Parce que si tout le monde peut, en fait, c'est toujours ceux qui ont déjà accès aux moyens qui vont le faire. Donc c'est là que ça vient, l'appropriation culturelle. Ça vient du fait que des gens ne peuvent pas raconter leur propre histoire pour plein de raisons, mais parce qu'en gros, ils n'ont pas accès au monde littéraire.
Enfin,
mais
ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'elle dit, c'est pas la même chose. Pour American Dirt, par exemple, c'est qu'en fait, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire que c'est des auteurs...
Non, c'est pas vrai. Il y a pas
C'est ce qui s'est passé pour American Dirt, c'est ça.
Il y a un backlash. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a le droit de le faire. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. Je crois que contrairement à ce que dit Lionel Shriver, ça va pas de pire en pire. Ça va aller de mieux en mieux parce que il fallait juste, en gros, un moment violent, un moment un peu dingue, où des minorités ethniques qui avaient jamais écrit leur histoire disent laissez-nous raconter leur propre histoire. Une fois que ça aura été fait, une fois qu'il y aura plus de diversité dans le paysage, je pense que naturellement les gens se remettront à accepter ce qui est la nature de la littérature, ce qui est de s'intéresser à l'autre.
Okay, that's a benign version of what's going on, and I hope you're
right
that that's the way it's going to go.
Très optimiste de ce qui se passe, et j'espère que vous avez raison. Mais il y a une distinction entre le fait de dire que des gens de différentes origines doivent pouvoir avoir accès au monde de l'édition et qu'on devrait lire
in a broader ethnic
de façon beaucoup plus large, dans un contexte ethnique plus global. Ça, c'est différent de dire en fait, les écrivains blancs n'ont pas le droit, n'ont pas la permission de parler au nom de ces communautés. Ou même juste d'avoir des personnages. Et c'était ça, le sujet. Et c'est à ça que je m'oppose. Je résiste à cette contrainte. Je pense qu'elle est donc anti-artistique, cette contrainte.
Non mais, alors moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous en tant qu'écrivain. Et je vous le dis franchement, pourquoi vous perdez votre temps avec tout ça? Genre, vous écrivez des romans magnifiques, vous faites ce que vous voulez. Il y a un personnage de femme noire démente, techniquement, médicalement démente dans The Mandibles. Elle est super, elle est géniale. Enfin, je veux dire...
Il y a un personnage de femme noire aussi dans l'une des nouvelles dont on parlait. Et je crois que Lionel Shriver a été attaqué dans un article du Telegraph. Voilà.
On sait très bien qu'il y a une nouvelle population de jeunes journalistes qui ne vivent que d'être sur des articles The Cut, machin. Pourquoi leur donner du grain à moudre alors que vous pourriez avoir une attitude altière en continuant à écrire les romans géniaux que vous écrivez?
Well, I do write whatever I fucking well want.
Et bien, c'est ce que je fais. En fait, j'écris vraiment ce que j'ai envie.
I'm not letting these people stop me.
Je ne laisse pas ces gens m'arrêter.
And I have a book coming out this spring.
J'ai un livre qui va sortir au printemps.
Of characters who are black,
et il y a plusieurs personnages noirs.
Set in the United States.
Et il se passe aux États-Unis.
So I didn't let it stop me.
Donc je n'ai pas laissé tout ça m'arrêter. Mais bien sûr, je ne suis pas naïve. Et je sais que ces personnages vont être passés à la lunette.
That exasperates me.
Et ça m'exaspère.
There is a predatory reviewing environment.
Il y a un environnement critique qui est assez prédateur, en fait. C'est une minorité de prédateurs, mais je sais qu'ils sont là. Et je sais qu'ils vont venir critiquer mon travail et pinailler quoi que je fasse. Mais vous avez raison, la réponse au final, c'est de mettre tout ça de côté, d'écrire les livres qu'on a envie d'écrire et d'ignorer tout ce bruit.
Un journaliste qui vous interrogeait sur votre prochain livre, à l'époque de The Mandibles, vous aviez dit que vous alliez travailler sur l'immobilier. C'est un grand matériel de fiction, aviez-vous dit, Lionel Shriver. Mais il m'a fallu du temps pour me décider, aviez-vous ajouté. Comment est venu ce sujet de la propriété comme ressort littéraire et pourquoi il a fallu autant de temps? Parce que c'est vrai qu'il y a une unité remarquable dans ce recueil de nouvelles, mais on se dit, est-ce que d'abord il y avait la volonté d'unifier ce livre autour du thème de la propriété, parce que c'est quelque chose qui vous travaille, ou au fond, est-ce que ça s'est accumulé finalement au fil des textes?
I accumulated them, but I accumulated them deliberately.
Mais je l'ai fait de façon délibérée. À chaque fois que j'écrivais une nouvelle, je voulais qu'elle parle de la question de la propriété. Je m'assurais que ce sujet soit présent. C'est pour ça qu'il a fallu des années. J'ai conscience du fait que la plupart des gens détestent les nouvelles, ou en tout cas, ils croient détester les nouvelles. Et je pense que quand on fait un recueil qui a ce type d'unité thématique, en même temps aussi, évidemment, qu'une unité qui est liée à la personne qui les a écrits, un point de vue, en tout cas, une voix, qui unifie le recueil de nouvelles, ça crée une expérience qui est plus proche de la lecture d'un roman. Et j'ai de l'empathie pour les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les nouvelles, parce que je crois que moi non plus, en fait, la plupart du temps, je n'aime pas trop ça. Je ne suis pas censée dire ça à l'antenne, mais en fait, j'essayais d'écrire le type de recueil de nouvelles que moi j'avais envie de lire, pour le dire autrement.
Alors c'est très cruel, c'est pour ça que, moi je devrais pas dire ça non plus peut-être ici, mais c'est pour ça qu'on aime, voilà, ce plaisir de la cruauté. Notamment, je vais lire un court passage de terrorisme domestique, donc cette histoire dont on parlait tout à l'heure, d'une femme qui voudrait vraiment que son fils à 30 ans, aille vivre un petit peu ailleurs, surtout qu'il a une fiancée charmante. Bah justement, c'est ce personnage, elle est noire, et justement, on a critiqué beaucoup Lionel Shriver pour ce personnage. Alors, Harriet, c'est la maman, et Liam, c'est le fils. Harriet était intimement convaincue que le bref engouement de Liam pour la profession de greffier de tribunal était directement lié au fait qu'il avait passé trop de temps devant la série New York Police Judiciaire. « J'aimerais autant que tu ne reviennes plus là-dessus », répliqua Liam d'un ton aimable. « C'est de la sténographie, ils en ont conclu que je devais être dyslexique. »« De toute façon, les logiciels de reconnaissance vocale vont supprimer ces emplois », fit valoir Kurt. Kurt, c'est le père. De mon point de vue, Liam l'a échappé belle. « Mais tu n'as pas envie d'avoir un métier, de fonder une famille, de rendre le monde meilleur ?»« Tout ça, tu sais bien que c'est pas mon truc. » Liam continuait du même ton affable. Déjà enfant, il n'avait pas le gène de la honte. Si l'un de ses deux parents pétait les plombs à cause de ses notes en dessous de la moyenne, qu'il ou elle ponctuait d'un fatidique « tu me déçois terriblement », et à l'époque où Liam était scolarisé pour récolter moins qu'un B, il fallait vraiment le faire exprès, il enregistrait l'affirmation comme élément d'information. Les châtiments corporels n'avaient plus cours, utiliser la nourriture comme récompense ou punition favoriserait les troubles alimentaires. Quant à le priver de sortie, cela ne rimait à rien dans la mesure où leur fils n'avait envie d'aller nulle part. Ainsi, l'immunité de Liam à l'égard de leur mécontentement avait réduit à zéro les options disciplinaires. « Ton truc, alors, c'est quoi ?» demanda Harriet du tac au tac. « Les plaques d'égout », répondit aussitôt Liam. Non que ce soit une nouveauté, Liam passait des heures tous les jours sur manhole.com, un site web qui avait d'abord poussé sa mère à lui assurer que, en tant que parent, il n'aurait aucun problème avec le fait qu'il soit homosexuel. Mais non, c'était un site web pour les passionnés de plaques d'égout. Il partageait des photos de différents modèles, des scans de décalque au crayon, des anecdotes sur des explosions de gaz d'égout, ainsi que des histoires de ruptures d'essieux de voitures survenant quand des voleurs de ferraille dérobaient les gros disques de métal laissant la cavité béante. Parmi les adeptes de cette version urbaine étriquée du voyage au centre de la Terre, les plus pragmatiques exploraient la sous-thématique des canalisations municipales, etc., etc., etc. C'est quand même une mère qui parle de son fils. Et c'est vrai que ça rappelle aussi « We need to talk about Kevin ». C'est une de vos marques de fabrique, ça, la cruauté, assez jouissive d'ailleurs pour un lecteur, des relations familiales, quoi. Du grand bordel qu'est une famille.
Oh yeah, I mean I don't have, I obviously don't have a romantic
oui.
relationship.
Clairement, je n'ai pas une relation
family.
Très romanesque avec l'idée de la famille
and
très
I
idéalisée.
Had fun with, the Liam, the boy in the story.
Je me suis beaucoup amusée avec ce garçon Liam dans cette nouvelle.
He is, I mean, if you will, he is aggressively passive.
Parce que si vous voulez,
right?
il est passif
so
agressif.
Exactly
c'est-à-dire,
the kind of person who
c'est
just
exactement
says,
le genre de personnage.
I am your problem.
Qui dit
right?
je suis, je c'est moi
he
ton
doesn't
problème.
Do anything for himself. He won't learn to
il ne
drive.
Fait rien pour lui. Il
Much
ne peut pas apprendre à conduire.
Get out of his, the room where he grew up.
Il ne sort jamais de sa chambre où il a grandi.
And it's looking at the kind of person who just
c'est
dumps
le genre de personne qui simplement s'impose à vous.
And there's a power in that.
Il y a un pouvoir dans ce genre de comportement. Ce sont des nouvelles qui parlent justement de ce pouvoir de la faiblesse aussi.
Et d'autant qu'il va se révéler finalement contre ses parents. Sabri Luata, on continue avec vous. C'est amusant parce qu'il y a aussi une cruauté des rapports humains dans vos livres. Beaucoup de revanche contre les familles. Il y a une scène hallucinante justement entre un personnage nommé Rachid qui ne comprend pas finalement l'agitation de la jeune génération. C'est Nesrine
ouais.
qui lui dit « arrête de t'excuser » et ouais. lui, il lui dit « arrête de te victimiser ». Au cœur en fait de ces relations humaines, il y a ces grands problèmes. Il y a aussi du passif-agressif d'ailleurs chez ces personnages.
Oui, moi je... Après la société française, elle est passionnante dans ses tensions. Et moi j'ai voulu aller au bout de ces tensions. C'est-à-dire tout le monde dit toujours ça va mal finir, ça va mal tourner. Moi je me dis, bah oui, bah à quoi ça ressemble si ça tourne mal je vais raconter, bah là 404 c'est ça.
C'est ça un roman, c'est de dire, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est de dire, et si...
Ouais, pour moi là, oui. Voilà. Ben, je pense que c'est mon point commun avec Lionel Shriver, c'est moi j'adore la fiction spéculative. J'adorais Philip Roth quand il imaginait que ce soit le complot contre l'Amérique ou là je me suis beaucoup inspiré de Opération Shylock pour ce livre.
Pourquoi? C'est sur le côté le sionisme,
ouais,
l'idée
voilà.
de sionisme musulman.
Ben, dans Opération Shylock, Philip Roth découvre alors qu'il est malade à cause d'un médicament, il découvre qu'il a un homonyme parfait qui s'appelle Philip Roth, qui est écrivain comme lui et qui en Israël s'est fait le promoteur d'un mouvement qui s'appelle le diasporisme, qui est le contraire du sionisme. Qui consiste en gros à dire aux juifs quittez Israël et repartez de par le monde. Et évidemment, c'est pas du tout ce que pense personnellement Philip Roth, mais il va devoir lutter avec cette espèce de monstre surgi de l'imagination de Philip Roth.
Et vous avez fait un peu, il y a l'idée, oui, parce que c'est vrai quand je l'ai dit comme ça, de sionisme musulman.
Maghrébin que, plutôt, je dirais.
Ouais,
moi, j'insiste sur la dimension. Moi, je pense que les musulmans, ne devraient pas être constitués comme un problème en France. C'est-à-dire qu'on devrait. Et je pense qu'il y a un problème, je crois, pour le coup, je le dis un peu clairement. Il y a un problème de persécution, je crois, contre les gens qui sont musulmans en France. Mais moi, je suis athée personnellement, mais dans ma famille,
c'est-à-dire
sur
la religion.
Musulmane. Oui, oui, on empêche les gens qui sont musulmans de. C'est par exemple, ce serait inadmissible dans un pays qui pratique la tolérance religieuse, même si en France, je crois qu'on a un problème avec ça. Et moi, je m'intéresse à des gens
mais
qui, par ailleurs, sont
les
musulmans.
Mais avec les religions, en général.
Non, en France, on a un problème avec l'islam en particulier. C'est très clair. De l'étranger, c'est extraordinairement visible. C'est des choses qu'on ne voit pas quand on y est. Quand on est en France. Mais il y a un problème. Il y a une partie de la population dont on considère qu'elle ne devrait pas être ici, en fait. Dont on considère d'ailleurs qu'elle nous remplace. Alors, vous voyez qu'elle remplace ceux qui sont là de plein droit.
C'est au cœur de votre livre.
Oui,
404, cette question-là. Quand je demandais tout à l'heure dans la première partie de cette émission si le livre avait une visée, alors je dis morale d'ailleurs au sens noble du terme, c'est aussi pour ça que vous choisissez justement de faire se dérouler le nœud de l'intrigue. On répétait tout à l'heure, le personnage d'origine algérienne, bon, vous m'avez dit qu'on pouvait utiliser cette...
Non mais alors moi je ne suis pas du tout dans la police, hein. Les gens parlent vraiment comme ils veulent.
Non mais c'est... Ramener les gens à leurs origines, c'est assez fatigant aussi en permanence, mais vous avez choisi justement une famille ou même une communauté d'étudiants qui ont tous les mêmes, j'allais dire, oui, pour le coup, les mêmes origines.
Oui, mais
ça fait aussi partie du combat, justement, par rapport à ce que vous disiez. Il faut que le roman aussi parle de problèmes ethniques.
Oui, parce qu'en France, c'est des problèmes qui sont partout, en fait. C'est-à-dire que ils nous empoisonnent au quotidien, et je crois qu'on n'en parle pas. On en parle tout le temps, mais pour ne pas en parler. Il y a une façon de parler tout le temps des choses, en mettant des gros mots dessus, qui généralement finissent par isme, comme par exemple communautarisme, et on s'interroge pas sur les raisons pour lesquelles il y a des gens qui se disent peut-être, oui, en effet, moi je crois qu'il se passe en France un problème de séparation. Il y a une séparation entre les communautés, et qu'on va finir un peu comme l'Amérique, c'est-à-dire les Balkans, un peu. C'est-à-dire les Balkans, sauf que ça explose pas. C'est ce que disait disait Philip Roth, il dit venez en Amérique, vous allez voir, chaque communauté vient morcelée, c'est un pays morcelé, mais où les gens vivent côte à côte dans une forme malgré tout de bonne entente quand ça se passe bien. Moi je vois la France comme une mosaïque, et dans cette mosaïque il y a plusieurs communautés. Par exemple, pendant longtemps les Bretons, les Auvergnats, quand ils arrivaient à Paris, ils étaient vus comme des étrangers, donc ça n'a pas été facile pour, et c'était une communauté ethnique aussi. Les Auvergnats étaient, c'était une ethnicité
bien
particulière
sûr, les
en
Bretons,
France.
Aussi,
les Bretons évidemment, je vois pas du tout pourquoi
plus,
ça serait différent pour les Algériens
de langue. Ouais. Je redis un mot sur 404, hein, dans lequel vous imaginez qu'en 2022, donc une femme qui incarne une France que vous décrivez comme blanche et gracieuse, à la fois éternelle et prime sautière, donc elle est élue, peu importe à qui elle peut ressembler dans la réalité, c'est pas non plus votre but, enfin,
non,
je sais
non.
pas, non.
Alors, vous voulez que je vous dise à quelle ressemble
ouais.
C'est Aurore Berger, si elle avait du charisme.
Ah,
donc c'est,
voilà.
plutôt une macroniste.
D'accord. Ça,
je voulais pas rejeter l'extrême. Je voulais pas rejeter le racisme du côté de l'extrême droite comme on le fait tout le temps. Je pense qu'il
pourquoi
est dans tout spectre politique.
Pourquoi
non, je dis Aurore Berger en rigolant. Je dis une macroniste, quoi.
Ouais,
en gros,
d'accord.
Macron se fait doubler par une Macron femme qu'il a mis lui-même, même si Macron est jamais nommé dans le bouquin. Hein.
Ouais.
Mais c'est juste l'inspiration, c'était ça.
L'inspiration est là. Donc en fait, elle est élue après un viol en fait qu'elle aurait subi alors en Algérie de la part du président algérien. Qu'elle aurait subi, parce qu'en fait, il y a des images, mais il se trouve qu'on est en 2022, comme déjà en 2020, dans un monde où on ne sait pas, en fait, si les images reflètent la réalité ou sont un montage, ce qu'on appelle le deepfake, qui permet aujourd'hui, on a parlé d'ailleurs avec Fabrice Imbert, qui consacre aussi un livre en cette rentrée, Le Monde n'existe pas, aussi à ce problème des deepfakes, c'est-à-dire qu'on peut, je prends une image de n'importe qui et je lui fais dire n'importe quoi, et on ne voit pas vraiment la différence. En fait, on ne peut pas comprendre que ce n'est pas lui qui a véritablement dit ça. Et en fait, ce monde des deepfakes conduit Alia, l'une de vos personnages, brillante majeure de polytechnicienne, à inventer une application qu'elle nomme 404, hein, c'est le titre du livre, qui permet de filmer des vidéos qui seront infalsifiables parce que précisément... on ne peut pas les enregistrer. Et elle décide de revenir dans l'Allier, où elle a grandi, pour tester son invention auprès de son compagnon Mehdi, qui est maire d'un petit village nommé La Brèche, aidé financièrement par un ancien camarade de prépa, Kader, magnat de la téléphonie, qui lui est dans un discours de revanche, justement.
Non,
contre
de vengeance. C'est
de vengeance.
Voilà. Il y a un projet.
Alors, quelle
c'est
est la différence,
discours, hein.
Sabri Louata?
En fait, j'ai vécu avec le 404 l'expérience du romancier, à mon avis, sans vouloir me comparer, mais comme le faisait Dostoïevski avec les démons de... Il voulait faire un pamphlet contre les nihilistes russes, et comme c'est un romancier au fond de lui-même, il leur a donné la parole. Et c'est devenu des personnages qui ont pris le contrôle sur le bouquin, et qui sont beaucoup plus intéressants que les opinions conservatrices et anti-contre ces personnages de Dostoïevski. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé pour moi la même chose dans le 404. Je voulais donner la parole plutôt aux personnages comme Mehdi et comme Alia, qui sont des gens pas modérés, mais qui sont des gens... Et en fait, Kader a pris le contrôle sur le bouquin à un moment. Et je dois dire qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans la situation où j'étais un peu fasciné moi-même par la perfection de son projet de vengeance, un peu. Voyez. Et le fait que la vengeance, c'est aussi une façon de subsumer les haines particulières. C'est-à-dire qu'il y a des petites haines dans la société. Lui, il dit aux jeunes, à tous ceux qui se disent « j'ai de la haine, j'ai du ressentiment ». C'est difficile de se sentir exclu sans cesse dans son propre pays. Lui, il leur dit « écoutez, faisons quelque chose ensemble ». Et il réussit à fondre les haines dans une vengeance.
Je voudrais qu'on vous entende lire justement un extrait de ce livre, hein, 404, où il y a plusieurs angles, mais il y a deux axes en tout cas principaux. Le côté, on en a parlé tout à l'heure, on vit dans un monde où la vérité n'est plus, en tout cas on ne peut plus la prouver par les images. C'est la thèse d'Alia et c'est ce pourquoi elle travaille. Et puis l'autre thème, donc la communauté nationale mise à mal par des luttes internes, par une fragmentation totalement du pays, entre ceux qui se sentent menacés de grands remplacements et l'autre camp, j'allais dire, qui voudrait une place légitime. Mais sauf que la thèse du roman est absolument pessimiste puisqu'on va vers un conflit très très préoccupant. Alors on va lire d'abord Alia qui explique justement dans quel monde on vit. Sabri Louatin, on vous écoute.
Pourtant ce matin-là, elle ne parle que d'échec, Alia. Hein. Un échec collectif qui la brûle comme si elle en était la seule et unique responsable. Ne pas pouvoir prouver qu'une vidéo est vraie ou fausse est un problème qui la hante depuis longtemps, avoue-t-elle d'emblée, bien avant la crise des mirages. Elle s'est intéressée à toutes les tentatives des constructeurs de caméras pour signer leurs images, avec de subtiles différences de pixels, comme un tampon, un saut indélébile, imperceptible à l'œil nu. On appelle ça la stéganographie, ça ne marche plus. D'autres solutions techniques ont été imaginées autour de cette notion de bruit, utilisée par les spécialistes de vidéo forensique pour qualifier les infimes erreurs produites par le capteur et identifier les images à la façon d'un passeport infalsifiable. Des maîtres chanteurs peu expérimentés ont été démasqués grâce à ces subterfuges. Mais les usages malveillants de l'intelligence artificielle progressent plus vite que les moyens de s'en garantir. Et les générations ultérieures de Mirage parviennent sans difficulté à contrefaire tampons, tâches de naissance et signatures biométriques. Il faut comprendre qu'on vient de basculer dans l'inconnu, poursuit-elle. Les agences et organes de presse vont devoir consacrer une partie croissante de leurs ressources à l'authentification des vidéos à valeur informative qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais il leur faudra plus de temps pour parvenir à un diagnostic un tant soit peu solide qu'il n'en faudra aux hackers pour usiner de nouvelles contrefaçons hyper réalistes. La preuve par l'image a cessé d'être une preuve, résume la polytechnicienne.
Alors, on va pas revenir sur ce qu'on a dit, cette situation technologique. On vient de vous écouter lire un extrait, justement, de brouillage entre le faux et le vrai. Mais je me dis, au fond, s'il y a plus de preuves par l'image, comme dit votre personnage, c'est peut-être que c'est enfin le temps du retour des mots.
Exactement. Voilà. C'est ce qui se passe. À un moment, on sait plus, on ne peut plus faire. On a tellement besoin des images pour nous informer maintenant, les petites vidéos, les petits formats, tout ça, que évidemment, le jour où les images, elles seront empoisonnées par l'intelligence artificielle qui peut faire des faux et par, en gros, des vidéos truquées de partout. Évidemment, qu'on en reviendra à ce qui est normalement l'essence du témoignage. On fait confiance à un humain qui va utiliser. Dans mon bouquin, je fais venir un peu comme une guest star Florence Aubenas, parce que je me souviens pendant les Gilets jaunes, elle avait écrit un papier que j'avais trouvé extraordinaire comme tout le monde sur les Gilets jaunes, où on accusait les Gilets jaunes d'antisémitisme, de racisme. Et elle avait dit, désolé, moi, oui, il y en avait, mais j'en vois autant dans les salles de rédaction, j'en vois autant dans les cocktails et ainsi de suite. Elle disait, c'était bien partagé. Et je me disais, surtout, elle faisait des descriptions précises et minutieuses avec des mots. Et je me disais, le langage sert à ça. Le langage, quand on fait confiance à quelqu'un qui nous écrit, il est infalsifiable.
Et elle est présente comme personnage, puisque vous citez, le personnage lit justement les textes de Florence Aubenas pendant le livre. Quand on vous entend, Sabri Louata, on a l'impression aussi, je parlais de visée morale tout à l'heure, mais même un côté justicier aussi. Est-ce que le roman ne serait pas aussi l'instrument d'une sorte de justice sociale, politique, dans la grande tradition du roman d'ailleurs ?
C'est drôle, je croyais que vous alliez utiliser même le mot de réparation, je me disais, là où vous en êtes. C'est vrai que c'est un peu ça, Il y a un peu, je comprends ce qu'il y a. Pour être franc, je suis pas encore, en fait. J'ai besoin de voir comment les gens le lisent. J'ai un peu peur. J'ai peur d'avoir écrit un roman dangereux, en fait. Parce que j'ai fait une expérience très sincère de romancier où l'ascésis, vous savez, la suspension du jugement. Et je me suis dit, non, je crée mes personnages et c'est les personnages qui mèneront l'histoire. Ils l'ont fait. Et je dois dire qu'à la fin, moi-même, je suis surpris. Je sais pas ce que ça finit très très mal. Ça finit vraiment en tragédie nationale.
Mais au contraire, ça pourrait être aussi, reprenant un autre mot grec, catharsis. Finalement, ça se produit sur scène, sur la scène de votre roman. Pour ne pas peut-être que ça se produise dans la réalité.
Vous avez raison, c'est le catastrophisme éclairé de Dupuis qui dit en gros le pire va arriver, on le sait mais on n'y croit pas. Si on y croyait, peut-être qu'on pourrait agir en amont pour l'empêcher.
D'autant que c'est très polyphonique, il y a plusieurs voix, plusieurs points de vue. Il y a Kader, le milliardaire, alors vous dites dans la vengeance, j'allais dire revanchard et séparatiste, en tout cas séparatiste, clairement. Il y a le père aux idéaux universalistes, toujours alors, pour le coup immigré comme on disait dans les années 80. Il y a Ali, alors lui qui est cuisinier, qui a le même âge qu'Alia, dont il est amoureux, et qui redécouvre l'histoire de ses parents et de la France en redécouvrant aussi le massacre du 17 octobre 1961. Il y a la sœur qui est animatrice d'une télé-réalité multiraciale. En fait, il y a tous les points de vue. En fait, vous ne choisissez pas. En fait, vous reconnaissez aussi au romancier le droit de ne pas trancher. Quand vous dites j'ai fait un roman dangereux.
Oui, parce que c'est en fait vous me tendez, c'est gentil, vous me tendez la perche pour dire quelque chose de très convenient, très confortable pour moi. Au fond, il s'agit de dire vous me donnez la possibilité de me défausser en disant non, moi je me suis contenté de montrer différents regards de la communauté algérienne en France sur leur propre identité en fait. Chacun a un rapport particulier à son identité. Par exemple, Mehdi est très musulman et en même temps, c'est un maire rural. Oui, c'est quelqu'un qui est au milieu des gens. C'est quelqu'un pour qui les laissés pour compte de la vitalité nationale sont aussi bien en banlieue dans les ghettos que dans le centre de la France profonde. Et donc, qui veut pas choisir, en gros, qui dit moi je suis du côté de ceux qui peinent, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines, Et malgré tout, c'est quelqu'un qui fait 5 prières par jour et qui va à la mosquée. Donc, c'est des personnages ambivalents et ambigus. Et vous avez raison. Mais malgré tout, il y en a un qui triomphe à la fin. C'est-à-dire que je veux pas mentir. À la fin, il y a un des. C'est comme si je crée une arène. 404, c'est une arène. Des points de vue combattent, mais c'est un combat à mort et à la fin c'est Kader qui gagne.
Et c'est ça qui vous fait peur, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, finalement, d'avoir fait gagner le séparatiste.
Mais il a gagné tout seul, je ne plaisante pas. C'est-à-dire j'ai pas trouvé en fait quoi opposer à Kader, à son projet de vengeance. J'ai pas trouvé quoi lui opposer.
C'est aussi une réponse à Soumission de Michel Houellebecq auquel on peut penser.
Michel, comment vous dites
Michel H.
Non, c'est pas vraiment une. Enfin, un peu, oui, mais. Enfin, j'ai dit que c'était un peu une réponse, c'est vrai. Mais lui, en fait, il a raconté plutôt un. Lui, ce qu'il a raconté, c'est plutôt le fantasme du grand remplacement. C'est-à-dire qu'il dit on est en train d'être envahis par les musulmans qui vont nous soumettre. Moi, je pense que c'est problème.
Il faudrait aussi relativiser peut-être cette vision, parce que c'est aussi l'histoire d'un personnage qui choisit de se soumettre par confort.
Bien sûr, d'accord.
Par confort, non, et par même ça, c'est comme fascination, c'est... parce que de se mettre
parce
aussi
que les femmes
sous boisseau.
Exactement,
d'une religion qui va finalement prendre en compte tous les aspects de sa vie, il n'a plus à s'en soucier.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de.
Le roman est très sinueux, d'ailleurs.
Oui, moi, ce que je reproche au roman.
Tricky, comme on dirait.
Non, je sais, le roman, c'est pas mon préféré de Houellebecq, c'est quand même un gros Houellebecq, un écrivain de génie.
Non, mais le vôtre par rapport, voilà.
Moi, le mien, il n'est pas par rapport au sien du tout, parce que lui, il n'a pas de personnage arabe, en fait. Je ne le reproche pas, d'ailleurs. Mais Ben Abbès, c'est une figure lointaine.
Oui, c'est le président.
Vous voyez. Donc, c'est pas du tout, ça l'intéresse pas, lui. On ne parle pas du tout de la même chose.
Et pour revenir à la discussion que vous aviez, Sabri Louata, avec Lionel Shriver, vous n'êtes pas vous hostile à ce que finalement Lionel Shriver ou d'autres parlent aussi du sujet de la communauté d'origine algérienne, comme ça on a tous les mots là.
Non, mais moi, je suis non seulement je suis pas hostile, mais je crois que le roman est je crois que le roman est contre la société, moi.
Ouais.
C'est-à-dire que le roman est c'est le fait de créateurs individualistes qui sont généralement en lutte contre le monde. Donc on n'est pas là pour. C'est pour ça que moi j'ai plus du mal avec les romans qui sont des mémoires pour dire voilà, je suis en paix avec moi-même, je vous offre le fruit de à quel point je suis en paix avec moi-même.
Lionel Shriver.
Oh, but there's also a constant problem when you do use a minority character.
Un problème quand on utilise un personnage issu des minorités.
If you do and damned if you don't situation because
c'est qu'en fait vous aurez des problèmes que vous le fassiez ou non.
A certain kind of mainstream version of,
quand on essaie
of
de créer
class of character, then,
une version,
then
on va dire, un peu grand public,
right?
De ce type de personnage, on va vous critiquer parce que c'est un stéréotype.
But if you write a very original character,
mais si vous créez un personnage extrêmement original, on va vous critiquer parce qu'il ne sera pas authentique. Donc en fait, c'est un jeu de perdant.
Voilà, on termine là-dessus. Jeu de perdant.
Catch 22.
Voilà.
Yes.
Exactement.
Catch
404. Pas mal. Sabri Louata, on va écouter à la fin de cette émission votre choix musical. Je voudrais vous demander pourquoi vous avez choisi. Donc c'est Scott Walker. C'est quel titre d'ailleurs?
The Seventh Seal.
Voilà, pourquoi ce choix-là?
En 5 minutes, ça raconte tout le film de Bergman.
Le septième show.
Le chevalier qui revient des croisades et qui parle à Mr. Death, donc la mort. Et la musique est somptueuse et dans même l'instrumentation, il y a il y a quelque chose de calamiteux. On sent une atmosphère de calamité, de peste. Et moi, c'est vraiment l'atmosphère de mon roman, une calamité technologique, un fléau technologique. Mais il y a un petit peu ça. J'écoutais beaucoup cette musique en l'écrivant.
Merci Sabri Louata, merci Lionel Shriver, merci Marguerite Capel. Je rappelle le titre de vos livres, Lionel Shriver, propriété privée, c'est chez Belfond, et Sabri Louata, 404, donc chez Flammarion, Versilio. Et donc on écoute Scott Walker, c'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Jean-Louis Deloncle à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission sans deepfake en compagnie donc de Lionel Shriver et Sabri Louata.
Anybody seen a night passed this way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God, and they say it's been a long way to carry on. Anybody hear of plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on a stake, her face framed in flames, cried, I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. And in the misty church, he knelt to confess.
The face within the booth was Mr. Death. My life's a vain pursuit of meaningless miles. Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there, answered the booth, and death hid within his cloak and smiled. This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time. My bishop and my knight will shatter his flanks, and still I might feel God's heart in mine. And through confession's grill, death's laughter was heard. The knight cried, "No, you've cheated me." But still I'll find a way, we'll meet once again, and once again continue to play. They met within the woods, the knight, his squire and friends, and death said, "Now the game shall end." The final move was made, the knight hung his head and said, "You've won, I've nothing left to play." The minstrel, filled with visions, sang to his love to look against the stormy sky. The knight, his squire and friends, their hands held as one, solemnly danced towards the dawn. His hourglass in his hand, his scythe by his side, the master death he is.